Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Dans le bois de Boulogne, la route du Précatlan sépare le secteur des travailleuses du sexe péruviennes de celui occupé par celles originaires d'Équateur. C'est à cet endroit que le 16 août 2018, aux alentours de 23h, Vanessa Campos, une personne transgenre d'origine péruvienne, est assassinée alors qu'elle tente de prendre la défense d'un homme agressé par 8 à 10 gars qui raquettent dans les parages. Les faits ne sont pas complètement établis, mais ce qui est certain, c'est que la bande s'acharne sur elle à coups de cutter, de couteau et d'armes de poing, avant de l'achever d'une balle dans le thorax. Après son meurtre, les hommages et manifestations se multiplient à Paris et dans plusieurs villes de France. Car Vanessa Campos est l'un des fers de lance de la lutte contre ces groupes de voyous qui viennent chaque soir racketter et agresser les travailleuses du sexe ainsi que leurs clients. Les suspects arrêtés et les 5 mis en examen depuis sont d'ailleurs bien connus des filles et des garçons du bois. Le meurtre de Vanessa Campos fait aussi ressurgir le débat autour de la pénalisation des clients de prostituées qui, depuis la loi du 16 mars 2016, risque désormais jusqu'à 1 500 € d'amende et 3 500 € en cas de récidive. Aujourd'hui, selon une enquête menée par 12 associations auprès de 589 travailleuses du sexe et citées par le journal du dimanche, 88% des personnes interrogées se disent opposées à cette loi. Plus de 78% d'entre elles ont constaté une baisse de leurs revenus et une précarisation qui engendre du stress pour les 30 à 40 000 personnes prostituées présentes en France. Tout de suite, nous sommes au bois de Boulogne, sur les lieux de l'assassinat, avec des camarades de Vanessa, des travailleuses du sexe, des militants LGBT et d'autres soutiens pour un dernier hommage. Et c'est un reportage de Rémi Dibowski-Douatte.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Nous demandons la justice et le respect que nous n'avons toujours pas. Nous savons que cette violence n'est pas uniquement le fait de quelques hommes en dehors du système. Ces violences sont, au contraire, nourries et permises par tout un système de pensée, de lois et de politiques publiques qui répètent en permanence « la vie d'une pute, a fortiori trans et migrante, ne compte pas ». En tant que travailleuse du sexe migrante, elle n'a pas été protégée par la police. Et comment avoir confiance dans la police quand celle-ci appelle les femmes trans « monsieur » pour les humilier ? Comment avoir confiance dans la police quand celle-ci vient donner des PV pour stationnement, promenade en sous-bois ou tout simplement pour arrêter nos clients ? Nous ne pouvons pas appeler la police sans nous mettre en danger. Vanessa est morte. J'ai survécu. Aux abolitionnistes et associations complices des politiques prohibitives, aux partis et personnalités politiques, nous vous disons aucune prière ni aucune subvention ne feront revenir Vanessa, ni elle, ni tant d'autres. Niokeli, Lily ou Véro avant elle ont disparu. Merci.
Merci beaucoup. Et prochainement, c'est...
Alors en fait, c'est le lieu exact où Vanessa Campos a été assassinée il y a quelques jours. Dans un endroit suffisamment isolé pour ne pas être vu de la route. Donc dans un endroit qui permet aux travailleuses du sexe du bois de Boulogne de s'isoler avec leurs clients sans risquer d'être repérées par les policiers. Et elle a tenté de protéger un client et les agresseurs se sont retournés contre elle et l'ont abattue. Apparemment, ils se sont acharnés sur elle, puisqu'elle a reçu plusieurs coups de couteau, cutter, une balle, je crois. J'exerce l'activité depuis 6 ans à peu près. J'ai travaillé, auparavant j'ai été pendant plus de 20 ans salariée d'entreprise. J'avais un poste relativement important puisque j'étais cadre d'entreprise. Et j'ai pu voir et ressentir la dégradation des conditions de travail dans le milieu de l'entreprise, dans le milieu du privé. J'ai moi-même souffert de harcèlement dans l'entreprise. Plusieurs fois, j'ai fait 2 burn-out. Et je suis arrivée à un moment de ma vie où je me suis décidée à trouver un autre moyen de subsistance que le travail salarié. J'ai donc testé plusieurs activités professionnelles. Par curiosité, j'ai testé l'escorting. Par pure curiosité, en me disant que je testerais, comme ça je saurais ce que c'était. Et puis voilà. Donc j'ai déposé une annonce. Et puis j'ai commencé. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une activité professionnelle, comme une autre activité professionnelle, très très éloignée des clichés que j'avais. Et que cette activité me convenait à moi, de par l'indépendance qu'elle me donnait, l'autonomie qu'elle me donnait. Et à la fois, elle me permettait de gagner ma vie, et en même temps, je retrouvais le sentiment d'être utile, d'apporter quelque chose, ce qui pour moi était important. Et ça fait maintenant 6 ans que je vis exclusivement de cette activité. Le travail du sexe a toujours existé, il existera toujours. Et les lois qu'on met en place, qui ont été mises en place dernièrement, au lieu de nous protéger, nous mettent en danger. La preuve en est, Vanessa est, à ma connaissance, la 4e victime depuis la mise en place de la loi. Il y en a sans doute eu d'autres, mais que je ne connais pas forcément personnellement. J'ai moi-même été victime d'agressions, chose qui ne m'était jamais arrivée avant la loi. Les conditions de travail se sont vraiment dégradées, alors que j'estime que mon activité professionnelle mérite d'être aussi protégée que les autres activités professionnelles.
Dans quelles circonstances vous avez été agressée ?
En fait, c'est un individu qui a pris rendez-vous et qui, une fois arrivé dans le logement où je reçois, a sorti un couteau et m'a demandé de lui remettre mon argent. Tout simplement. Je ne me suis pas laissée faire. J'avais pas d'argent et du coup, il a tenté de m'imposer un rapport forcé et j'ai été violemment battue. Et il a fini par partir.
C'est les stigmates qu'on voit sur les yeux ?
Tout à fait.
Donc c'est très récent ?
C'était il y a 3 jours. J'ai une fracture du plancher de l'orbite, j'ai une plaie ouverte avec suture. J'ai des hématomes sur le corps. J'ai tout de suite en fait appelé des collègues qui sont venus pour me soutenir, pour m'emmener à l'hôpital et qui me soutiennent encore au quotidien. Et donc c'est vrai que je me sens pas du tout isolée grâce à ça. Mais la difficulté, c'est que par exemple, je ne peux pas aller voir la police pour déposer plainte, parce que si je fais ça, il y a de fortes chances que la police aille voir mon bailleur pour le poursuivre pour proxénétisme, alors qu'il ne sait pas ce que je fais. Et ce bailleur se verra dans l'obligation de me mettre dehors, donc je me retrouverai sans logement. Et que par ailleurs, les personnes avec qui je vis seront aussi poursuivies pour proxénétisme, juste parce qu'elles vivent avec une personne qui est travailleuse du sexe. Donc je me retrouve, bien qu'étant française, en règle, et payant mes impôts et étant déclarée, à ne pas pouvoir demander l'aide de la police, parce que je sais qu'au lieu de courir après mon agresseur, elle commencera par poursuivre les personnes de mon entourage qui m'aident. C'est une deuxième violence. J'ai la chance d'être entourée par les collègues qui me soutiennent moralement. Mais c'est très dur, d'autant plus que ça implique que potentiellement mon agresseur va recommencer et que peut-être la prochaine fille qui l'agressera s'en tirera moins bien parce que j'ai eu la chance de ne pas être poignardée. Mais ça arrivera peut-être à la suivante, comme c'est arrivé à Vanessa qui est morte il y a une dizaine de jours.
Ça a remis en question cette activité professionnelle ?
Ah, pas du tout, parce que mon activité professionnelle reste une activité qui me convient. C'est juste que nous, en tant que travailleuses du sexe, on n'est pas protégés comme les autres. Et ça, c'est violent. Mais mon activité, non, elle n'est pas remise en question. Si toute personne qui se faisait agresser changeait systématiquement de travail, ça serait. Et là, pour le coup, non, j'ai aucune raison de changer d'activité professionnelle.
Je vois que vous tenez une pancarte avec un portrait. Est-ce que vous connaissiez cette personne qui a été assassinée dans le bois de Boulogne ?
Moi, personnellement, je ne connais pas Vanessa individuellement.
parce qu'elle vient d'arriver en France il y a 2 ans. Elle est une personne qui vient de Pérou. Moi, je viens de Thaïlande.
Quand est-ce que vous êtes arrivée?
Moi, je suis arrivée en France parce qu'il y a le problème en Thaïlande après le coup d'État en 2016 qui m'oblige de fuir de la Thaïlande. Et aujourd'hui, je suis en France travailler avec les filles.
Vous travaillez au Bois de Boulogne?
Non, à cause de la loi de la pénalisation des clients et à cause du danger dans le bois, j'ai décidé de ne pas travailler dedans. Dans le Bois de Boulogne, aujourd'hui, il y a la politique qui est vraiment discriminante. La mairie a décidé d'éteindre la lumière. Donc la journée, c'est déjà dangereux. Il y a déjà la criminalité qui arrive. Et maintenant, il y a la lumière qui est éteinte. Ça augmente et renforce de plus en plus de violence et de danger.
De travailler chez vous, ça vous convient?
À la maison, moi, je travaille dans Napa. Normalement, ça coûte 150 euros par heure, par exemple, pour mon prix. Et je dois baisser le prix à cause de la loi. Il y a de moins en moins de clients et les clients qui sont plus exigeants qu'avant. Et maintenant, les filles, elles sont obligées de rester dans le tarif qui n'est pas très suffisant pour vivre.
Est-ce que vous faisiez ce métier-là aussi en Thaïlande?
Ah oui, quand j'étais étudiante en Thaïlande, c'est à cause du système néolibéralisme, parce que là-bas, les facs, tout ça, c'est privatisé. Et puis, il n'y a pas aide sociale, il n'y a pas les allocations comme en France. Et les femmes trans n'ont pas les droits. C'est-à-dire qu'en Thaïlande, il n'y a pas de loi pour le changement d'état civil. Le fait de voir le travail, c'est encore plus difficile que les femmes françaises qui peuvent quand même changer l'état civil. Mais en Thaïlande, oui, je subis beaucoup de la répression économique en tant que personne trans. Et donc, j'étais obligée aussi de travailler en cachette. Et là-bas, c'est difficile parce que le travail du sexe en Thaïlande est totalement interdit.
Vous parlez très bien français.
Merci beaucoup.
Comment vous apprenez?
Maintenant, je suis étudiante dans une université parisienne. Ah oui, c'est les flics. Je viens de voir que vous êtes en civil depuis la dernière fois.
Bonjour, madame.
Je suis désolée, je vais...
Vous allez l'interroger deux minutes.
Moi, allez-y, alors.
En fait, je...
Alors, c'est OK pour le cortège.
D'accord.
Vous partez tous ensemble. Par contre, gardez les trottoirs.
D'accord.
Il n'y a personne sur la route. Sinon, ça va être, on n'est que deux, ça va être...
C'est ça, difficile aussi.
Voilà. Mais on est avec vous jusqu'au bout.
D'accord, je vais informer toutes les amies.
Voilà.
Ça se passe bien avec la police?
Ah oui, avec la police qui sont là. Les deux policiers, oui, ça se passe bien. Mais si vous parlez de la police qui vient souvent faire chier aux filles dans le bois, ça passe pas.
C'est en permanence des situations qui les amènent à faire des interpellations, à intervenir. Parfois pour des petites choses, mais que voilà la réalité aujourd'hui, ça s'est traduit pour un meurtre. Et je sais aussi qu'on passait quand il y avait le délit de racolage, je dois accepter des rapports avec des policiers qui venaient en civil et qui exerçaient une pression à l'époque quand je ne maîtrisais pas la langue en 2004 et qui me disaient voilà, il faut que tu sois gentil avec moi parce que sinon, le jour que je viendrai, voilà, je t'amènerai au commissariat, etc. Et je croyais à l'époque, parce que je n'étais pas si, on va dire, politisé et si revendiqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je le dénonce, en fait.
Et vous l'avez fait?
J'ai dû accepter le rapport. J'étais sous chantage et dans une situation de fragilité. Je ne connaissais rien ici. Donc, il fallait mieux avoir un policier à travers une passe gratuite. Que ça s'est traduit aujourd'hui pour moi comme étant un viol. Et je l'ai vécu à l'époque comme un viol.
Bueno, chicas, acérquense por favor todas, que en 2 minutos estamos partiendo a... ¿Con rumbo a dónde vamos? A la plaza de Vanessa, donde ella fue asesinada.
Et obligé à payer toujours des arrêtes, des amendes ici à Boulogne à cause de travailler dans les véhicules, à cause de travailler dans la voiture. On est toujours obligé à payer des amendes. Que ça fait que la mairie de Paris soit les plus grands proxénètes parce qu'il faut faire beaucoup plus de clients pour payer les amendes.
Buenas tardes, okay. Chicos en
général. Buenas tardes, tout le monde. Je m'appelle Christelle, je suis une vraie amie de CNES.
Todas super nerviosas,
je suis
miedo.
très triste, je suis très angoissée parce qu'il y a des années en arrière, il y avait eu déjà des morts ici au Bois. C'est la justice, il n'a pas agi. Il nous ignore comme si on était moins que rien.
Ce n'est pas la première, mais ce ne sera pas la dernière. J'étais moi-même victime d'agression. Ça s'était passé un soir. Je suis sortie travailler. J'étais plantée dans 2 semaines de coma, 1 mois et demi d'hospitalisation, ce qui a suivi après de la rééducation et beaucoup, beaucoup de souffrances physiques, morales. Donc ça m'a énormément rappelé ma propre agression.
Toutes, on est en danger, toutes sommes en danger parce que la police jamais nous a prêté attention parce que nous sommes trans, parce que nous sommes dans la rue, parce que nous sommes sous le trottoir uniquement pour ça. Et justice pour Vanessa, justice, et on veut justice. Justice doit être faite.
France Culture, les pieds sur terre.
Voilà, moi, je suis là pour d'abord rendre hommage à Vanessa qui a été assassinée la semaine dernière alors qu'elle travaillait au Bois de Boulogne. Voilà, elle s'est opposée à l'agression de son client par un groupe d'individus armés qui était venu racketter tout ça. Et je viens aussi pour protester contre la répression et les agressions qui touchent en particulier les personnes trans qui font du travail du sexe, notamment ici au Bois de Boulogne, mais pas seulement. Moi, je me sens vraiment concerné parce que je suis travailleur du sexe moi-même. Je travaillais avant plus via des petites annonces sur Internet, chez moi ou chez mes clients. Et de plus en plus, du coup, avec la loi de pénalisation des clients et le harcèlement des abolitionnistes sur les sites de petites annonces, du coup, les sites ferment les uns après les autres. Donc, il y a eu Viva Street qui a été un peu médiatisé il y a quelques mois. Et là, le mois dernier, c'est OW Annonce qui a fermé. On sait que c'est dû à des pressions pour que les sites arrêtent d'héberger des annonces de prostitution. De plus en plus, du coup, je me retrouve à devoir aller dans la rue ou au bois, en tout cas dans des endroits extérieurs identifiés pour le travail du sexe, pour tapiner, pour faire du travail du sexe. Avant, j'étais dans un cadre sécuritaire parce que je pouvais choisir mes clients, les avoir au téléphone avant, un peu me rendre compte si ça allait être dangereux ou pas. Et maintenant, je me retrouve à devoir aller au bois pour trouver des clients avec des tarifs beaucoup plus bas que ce que je faisais avant, plutôt en journée, justement, par sécurité. C'est quand même un peu moins dangereux. Voilà, il y a souvent des groupes de garçons qui traînent dans le bois. On ne sait jamais si ce qu'ils veulent, en fait. Donc, si je vois qu'il y a une situation qui est trop dangereuse, faut que je cours, quoi. C'est ça, ça m'est arrivé des fois, quelques fois, de m'éloigner de groupes qui m'effrayaient, quoi. Mais ouais.
Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher, ces groupes de garçons, en fait ?
Souvent, c'est pour racketter, un peu profiter du fait qu'on soit isolé dans un endroit pour nous prendre nos sous, voilà. Il y en a aussi peut-être certains qui viennent pour casser du trans ou du PD, quoi, mais il n'y a pas qu'un seul motif. C'était un peu comme un constat d'échec, c'est que avant, on avait la possibilité de travailler de manière plutôt sécuritaire, soit entouré d'autres collègues à proximité, si après on peut crier, ou soit chez soi, que maintenant on est obligé de s'enfoncer, de revenir au bois pour travailler, ou de s'enfoncer de plus en plus dans la forêt, quoi, pour être tranquille et pas subir le harcèlement policier contre nos clients. Ça fait quand même plusieurs années que les travailleurs et les travailleuses du sexe se mobilisent contre ces lois qui nous empêchent de travailler en sécurité, et j'ai un peu l'impression qu'en fait personne nous écoute, que les politiques s'en foutent totalement de notre sécurité. Ils sont coincés dans leur idéologie de nous empêcher de faire un travail qui soi-disant n'est pas bon pour nous, qui va contre notre dignité, et au final on se fait agresser, et c'est de pire en pire la situation, quoi. Ouais, plus de contamination, plus d'agression,
Est-ce que ce contexte, ça vous fait remettre en question votre activité ?
Non, parce que de toute façon, j'ai besoin de faire ça pour avoir des sous. Donc, en vivant à Paris avec le loyer que je dois payer, qui est quand même énorme, comme à Paris, c'est normal, quoi. Avec tous les frais, toutes les factures, tout ça. Je suis à découvert systématiquement tous les mois, la moitié du mois, sans dépenser excessivement. On n'a pas le choix de travailler. Donc moi, je travaille à côté, mais je gagne pas assez pour vivre comme il faut et pour vivre sans dette, surtout. Donc je trouverai toujours un moyen de faire cette profession-là, mais je m'arrêterai pas, en fait. Donc C'est vraiment peut-être aussi ça que les politiques doivent réaliser, c'est qu'on ne s'arrêtera pas de le faire, c'est juste que plus ils feront des lois pourries, plus on continuera à travailler dans des conditions dangereuses pour nous. Mais on n'a pas le choix, quoi.
Et bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui ensemble et rester solidaires avec nous pour notre chère Vanessa.
C'est Mimi.
C'est Mimi qui parle.
Mimi qui parle, oui.
Mimi, elle est thaïlandaise, je crois.
Alors, Mimi est thaïlandaise, oui. Mimi est une transsexuelle thaïlandaise, effectivement, qui risquait la peine de mort dans son pays, en fait, parce qu'elle elle disait très clairement qu'elle était contre la politique du roi, en fait. Voilà. Et Mimi, est en règle dans le pays, donc elle peut librement parler sans prendre de risques. Et c'est une fille assez extraordinaire, oui. Mais d'une façon générale, les travailleuses du sexe sont des femmes extraordinaires. De fait, ce sont des personnes qui ont choisi un mode de vie tellement en décalage avec ce qu'on appelle la normalité qu'elles ont forcément ou une ouverture d'esprit ou elles ont été obligées de vivre des choses que d'autres personnes n'ont pas vécues, en fait. On ne peut pas être travailleur du sexe sur le long terme sans finir par avoir forcément une personnalité un peu atypique et assez intéressante. Mais j'ai pas le sentiment d'être atypique, forcément. Moi, je me considère comme normale.
Mais le rapport sexuel monnayé, c'est pas forcément toujours agréable, si ?
Je pense que ça dépend... comment dire ? Il faut déjà bien prendre en compte le fait que rien ne peut nous être imposé. Nous décidons de ce que nous faisons. J'ai le droit de refuser un client. J'ai le droit de refuser un rapport. Et on ne m'a jamais forcé à quoi que ce soit dans cette activité. Parce qu'on ne vit pas forcément mieux, mais les conditions de travail, potentiellement, pourraient être meilleures que dans le privé. C'est-à-dire que si on avait la tranquillité d'esprit qu'on n'a pas à cause des lois, mais si on avait cette tranquillité d'esprit, c'est un travail qui nous permet d'être indépendantes, autonomes, d'avoir nos horaires, et en gagnant quand même suffisamment bien sa vie pour pouvoir vivre décemment, ce qui de nos jours est un luxe. Ensuite, le rapport sexuel, je dirais que je peux comprendre que dans nos sociétés, beaucoup de gens accordent une importance cruciale au rapport sexuel, mais il faut aussi comprendre que pour des personnes telles que moi, c'est pas forcément quelque chose de si crucial que ça. Et en l'occurrence, dans le travail du sexe, c'est un contrat qui est posé entre deux personnes qui sont d'accord. Si je suis pas d'accord, je peux refuser un client. Donc, je ne vais pas vous dire que je passe forcément des moments fantastiques, mais ce n'est pas le but du jeu. Je pense que dans tous les métiers qu'on exerce, il y a des moments qui sont chiants à mourir. Et ben là, c'est pareil. Il y a des fois, c'est moins drôle que d'autres. Et puis, il y a des fois, c'est très amusant. Ça reste un boulot. Mais quand j'y vais, je ne me dis pas je vais prendre mon pied. Je me dis juste que je vais travailler, que j'ai une prestation à apporter. On me demande un service, une prestation, et que je suis là pour l'apporter. Et si je sens que je ne suis pas capable ou que la demande qu'on me fait ne convient pas à mes capacités, je le dis. Et bien souvent, d'ailleurs, les clients le comprennent très bien. Ce qui se passe quand on nous stigmatise plus, c'est que les gens, d'une façon générale, nous déconsidèrent encore plus. Donc ont une attitude de plus en plus méprisante à notre égard. Et ça, c'est directement lié aux lois où on dit que nous serions forcément des pauvres bêtes sans cervelle.
Alors du coup, vous, par rapport à ça, vous le dites autour de vous, mon activité, c'est ça
Alors, on va dire que j'ai plusieurs vies, c'est-à-dire que j'ai un milieu où les gens ne savent pas ce que je fais, parce que c'est reposant d'avoir une vie, entre guillemets, normale. Et j'ai aussi une autre vie où tout le monde sait ce que je fais, et dans cette vie-là, j'en parle. Ça veut dire aussi qu'au quotidien, je suis en position de militance. Donc c'est très fatigant. C'est pour ça que je conserve une partie de ma vie où les gens ne le savent pas, pour pouvoir à certains moments se reposer, parce que ce qui est très difficile dans ce métier, c'est vraiment le stigma. Plus que toute autre chose, c'est le stigma. Donc avoir des moments où on peut juste être un individu lambda qui n'exerce pas d'activité entre guillemets mal vue, d'ailleurs pas entre guillemets, une activité qui est mal vue, ça me repose, ouais. Ça me repose. Ça permet de se ressourcer de temps en temps.
Vous êtes parti en vacances par exemple cet été ?
Non, pas du tout. En fait, je suis restée à Paris tout l'été, moi. Je pensais partir en vacances éventuellement en hiver.
Qu'est-ce que vous projetez de faire ?
Alors là, j'ai pas le choix, parce que vu que je viens d'être agressée, j'ai 3 semaines d'arrêt total. Donc je vais me mettre au vert, histoire de me reposer, puis de faire disparaître les traces.
L'indard venimeux.
C'est loin, mine de rien, ce...
Elles sont obligées de travailler de plus en plus loin dans les bois pour que la police ne les laisse travailler, en fait. Donc elles se cachent.
Qui vont vraiment obligées d'aller très loin. Et puis, l'inévitable clairière amie, vaste accueillante, les fruits à portée de main et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée plus haut que les nues. Elle est née des caprices. Elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamant. Pomme d'or, pêche de diamant. Des cerises qui rosissaient ou grossissaient lorsque deux doigts s'en emparaient.
Vanessa Campos, prostituée, assassinat, c'était un reportage de Rémi Dibowski-Douat réalisé par Clémence Grosse. Merci à Anaïs, à toutes les travailleuses et travailleurs du sexe rencontrés au bois de Boulogne. Pour prolonger votre réflexion ou juste pour écouter une super série, je vous recommande chaudement dans LSD la série documentaire, la série de Perrine Kervran, Les transidentités racontées par les trans, a été diffusée la semaine du 27 août 2018. Vous pouvez également vous précipiter au cinéma pour regarder Sauvage, un très beau film de Camille Vidal-Naquet sur les personnes prostituées masculines dans le bois de Boulogne. Jeanne Delecroix, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Camille Richir, c'est notre stagiaire.
L'indard venimeux, l'un socle trompeur, plus loin, une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre et d'acide, probablement qui vous rongerait les os. Et puis les fruits à portée de main et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée. Elle est née des caprices. Elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamant. Pomme d'or, pêche de diamant. Et ses cerises qui grossissaient lorsque... La pluie et la rosée, toutes ces choses guidées par une étoile, guidées par une étoile. Première